Sébastien Lévesque, comment vas-tu?
Ça va très bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien et j'en profite pour vous annoncer que notre très attendue saison 8, ayant pour thème les Rabbit Holes, débutera le 4 octobre prochain sur toutes les plateformes.
Mais si vous êtes un membre Patreon, où que vous soyez dans le monde, elle débutera en avance, soit le 27 septembre. Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement à abonnement mensuel qui vous donne accès à du contenu exclusif de Distorsion et à tous nos épisodes en avance, le tout sans publicité. On vous offre deux forfaits exclusifs pour nous supporter.
À 3 $ canadiens par mois, vous avez accès au forfait Distordu, qui vous offre un shout-out dans un épisode, l'accès au serveur Discord VIP, accès aux épisodes réguliers en avance, accès aux épisodes bonus en avance, 10 % de rabais sur la boutique, et ce, à chaque mois.
On a aussi le forfait Oui, monsieur! À 8 $ canadiens par mois, vous obtenez tout ce qui est inclus dans le forfait Distordu. Vous avez en plus accès à du contenu exclusif qui est dédié à ce forfait, comme un after-show après chaque épisode, des interviews, des discussions off the record, etc. Vous avez aussi également accès à un épisode secret par saison, sans parler que vous avez accès aux épisodes secrets des saisons précédentes. Également, vous avez 20 % de rabais sur la boutique à chaque mois.
Rendez-vous au patreon.com/distorsion pour vous abonner et devenir des commanditaires officiels de Distorsion.
On vous remercie énormément de votre soutien et bonne écoute.
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
He in fact was stalking my profile for 5 years, taking my photos, and he created this identity that was not me. It was this Linnea Kukua with my face on it.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
Depuis l'avènement des réseaux sociaux, il est de plus en plus facile de trouver l'amour en ligne.
Paradoxalement, il est encore plus facile de s'inventer une nouvelle identité.
En 2012, la copine du footballeur américain, Manti Te'o, l'amour de sa vie, meurt tragiquement d'une leucémie, ce qui ébranle toute la presse sportive.
Hélas, derrière cette histoire émouvante se cache un véritable tissu de mensonges où il est difficile de distinguer le vrai du faux. Sébastien Lévesque, comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien parce qu'on est de retour derrière le micro en podcast. C'est excitant, ça.
Ah, mais ça, là, on avait tellement hâte de retourner derrière le micro puis de parler à nos auditeurs, nos fidèles distordus. Ça fait du bien d'être là, là.
Oh oui, ça fait longtemps parce qu'en plus, on n'avait pas vraiment fait de saison hivernale.
Non.
Parce qu'on avait dû se concentrer sur le lancement du livre. Donc, on avait un peu skippé cette saison-là. Et par la suite, ben, on a passé tout l'été en tournage de notre série télé, mais là, on est de retour en podcast, puis c'est très excitant. On revient encore une fois là avec toute une saison. On va être encore plus dark, plus d'histoires de catfish, de crimes non résolus, de dark web. Puis c'est le fun aussi d'explorer des histoires moins connues.
Oui, ben oui, parce que c'est un peu ça notre objectif aussi, hein, c'est de parler de choses que les médias ne parle pas non plus. Là.
Puis des autres podcasts non plus.
Exact.
Donc, on veut essayer parfois de se distancer de certains cas qui sont très, très connus. Mm-hmm. Parfois, oui, on va parler d'histoires qui ont fait les manchettes, mais on veut aussi trouver des histoires un peu plus obscures, là, un peu comme vous vous rappelez Key Lime Pie dans la saison précédente ou encore Lake City Quiet Pills. Donc, mm-hmm. parfois, c'est des petits phénomènes Internet, des petites discussions sur Reddit, mais qui ouvrent la porte là à des grands mystères. Mais ce soir, en fait, on a une histoire quand même assez passionnante de catfish, une histoire qui a ébranlé la presse sportive américaine. Le cas de Manti Te'o, qui est un footballeur qui s'est fait prendre dans une histoire quand même assez tragique, dans un gros tissu de mensonges. Puis ça nous montre, dans le fond, que des histoires de catfish, des usurpations d'identité dans le but là, de faire des fraudes amoureuses, eh bien, ça peut arriver à tout le monde.
C'est un footballeur qui a du succès, qui est un bel homme. Je suis convaincu qu'il y a pas de misère à se trouver une copine dans la vie. Mais malgré tout, vous allez voir, il est tombé dans une arnaque amoureuse qu'on pourrait pas penser que ça puisse arriver à ce genre de personne-là, à des stars comme ça.
Non, exactement. Ça montre qu'on a tous des failles à quelque part. Mm-hmm. Puis quand on exploite ces failles-là, eh bien, il y a moyen d'abuser de quelqu'un, même virtuellement. Dans son cas, Monty Théo, c'était un bon gars. C'était quelqu'un qui était religieux aussi. C'était un croyant assidu de l'Église des Mormons. Donc, on a un peu exploité ces failles-là dans le but de le manipuler. Donc, ça va être une histoire bien passionnante et on espère que vous allez nous suivre jusqu'à la fin. Autrement, eh bien, on remercie tous ceux qui ont acheté notre livre, en fait, Distorsion, 13 histoires étranges de l'ère numérique. On vous rappelle que c'est toujours disponible sur leslibraires.ca. Si vous êtes européen, à distorsion.fr, vous pouvez trouver tous les endroits où on peut acheter notre livre en ligne ou même en libraire. Et en format numérique, c'est chez Hachette, donc le super éditeur français qui offre notre format numérique avec les super illustrations de Ron. Donc là, c'est là que ça se passe. On vous invite évidemment à soutenir les libraires indépendants. Donc, chez leslibraires.ca ou leslibraires.fr, vous pouvez trouver toutes les librairies où c'est possible de trouver le livre finalement. Et aussi, ben, on va être au Salon du livre de Montréal. Oui. Donc, les 20 et 22 novembre prochains, on va autographier, dédicacer des livres. On va être là. Vous pouvez venir nous rencontrer.
Ça va être vraiment le fun parce qu'on aime ça. Celui à Québec, ça m'a surpris. Il y a des gens qui venaient nous porter même des bières.
C'est vrai.
Qui venait nous saluer. N'hésitez pas à le faire dans le temps de celui de Montréal aussi, si vous voulez. C'est pour nous, ça nous fait toujours plaisir de rencontrer les distordus en vrai puis de vous dédicacer le livre.
Exactement. Sans oublier notre série télé documentaire aussi qui est lancée. Donc, on est très excités de ça aussi. Pour les diffusions, c'est chaque mercredi à 20h30 sur Moi et compagnie. Mm-hmm. Et puis, c'est 13 épisodes de 30 minutes donc on vous propose en mode documentaire. Donc, on explore des grands thèmes de distorsion, des grands thèmes d'actualité aussi en lien avec l'ère numérique. Et on va à la rencontre de gens là, qui ont vécu des histoires étranges. Donc, on a parlé de catfishing la semaine dernière. On va parler de dark web. Ouais. On va parler de paranormal, mais aussi de vol de données, d'intelligence artificielle. On a plein de sujets intéressants que on espère vous allez aimer. Puis, il y a certains sujets du podcast qui vont être en lien avec la série télé. Mm-hmm. Donc, comme ce soir, on a parlé d'une histoire de catfishing cette semaine sur Moi et compagnie. Ouais. Et puis, justement, aujourd'hui, on a une histoire de catfishing où on va un petit peu plus dans les détails. On va rentrer un petit peu plus dans les détails aussi de l'histoire qu'on a couvert dans notre épisode de télé. Donc, quand c'est possible de faire des liens comme ça, eh bien, on va le faire. Comme ça, ceux qui aiment bien la série télé vont pouvoir retrouver la même semaine une émission qui est en thème avec ce qu'ils viennent de regarder. À d'autres occasions, ça n'aura aucun lien.
Non.
Donc, à certains moments, ça se peut qu'on fasse des petits liens comme ça là, pour être sûr de bien aborder un thème là, bien en profondeur.
Comme à l'habitude, hein, on revient avec les bonnes habitudes. En fait, la tournée de bière.
Oui.
Cette semaine, on boit la bière Clara, qui provient de la microbrasserie La Schwapp de Saint-Félicien. Elle, c'est une pilsner bohémienne qui est à 5% d'alcool. Elle a une allure dorée et harmonieuse. C'est rare qu'on boit des pilsner, hein, Émile?
Oui.
Généralement, on boit plus des IPA, mais là, on s'est fait suggérer cette bière-là. Elle est bien amère, elle a des bons goûts d'épices et d'herbes et un petit soupçon de miel qui y ajoute quand même une bonne saveur.
Exactement. Cette semaine, en fait, la bière nous est offerte par Anne, qui nous a offert cette bière là, via la tournée de bière que vous pouvez trouver au distorsionpodcast.com. Donc, c'est une façon de nous encourager. Vous pouvez cliquer sur le bouton tournée de bière et nous faire découvrir une bière de votre région et faire un don. Et de notre côté, eh bien, ça nous encourage. Ça nous fait beaucoup plaisir.
Absolument. On a aussi un shout-out, comme à l'habitude, une review 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient de plutôt bien, mais voilà.
C'est le nom de la personne.
Oui. Il nous dit « Vraiment fan de Distorsion, je vous écoute presque tous les jours quand je suis à vélo, dans le train et même quand je monte à cheval. »
Oh là là!
Votre podcast est unique et j'ai du mal à trouver d'autres émissions similaires. Bref, continuez.
C'est gentil, ça.
Oui, merci à toi. Plutôt bien, mais voilà.
Essaie de ne pas faire d'accident en cheval en écoutant Distorsion, s'il te plaît.
Oui, s'il vous plaît.
Je pense qu'on a tout dit ce qu'on avait à dire, mon cher Seb. Est-ce qu'on est prêt à se plonger dans l'histoire troublante de Catfish de Monty Théo?
Oui, monsieur.
Allons-y. Le 1er octobre 2012, Pete Tamel, journaliste au magazine sportif Sports Illustrated, publie un long article sur la carrière d'une vedette montante du football américain, le jeune Manti Te'o, qui est linebacker ou secondaire des Fighting Irish de l'Université de Notre-Dame. Le football collégien aux États-Unis, là, c'est extrêmement populaire. Il y a parfois le plus d'assistance que dans certains matchs de la NFL, qui est la grosse ligue principale.
Ouais.
Des fois, ça devient crazy, là, même dans des endroits comme Penn State.
Ouais.
Les stades sont même plus gros que certains stades de la NFL. Donc, il y a vraiment là, énormément d'engouement pour le football collégial.
Mais il est de bonne qualité, ce football-là aussi.
Ben oui, non, non, c'est clair. Puis c'est là que toutes les futures vedettes de la NFL ou même de la CFL font leur début. Donc, c'est très intéressant. À regarder. Les joueurs doivent s'enrôler à l'université et atteindre certaines notes pour pouvoir demeurer dans l'équipe. Dans certaines universités, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que la réputation repose tellement sur la performance de l'équipe de football que les professeurs vont être très permissifs, disons, là, sur les notes scolaires pour ainsi garder les meilleurs joueurs dans l'équipe et maintenir la réputation de l'école. Donc, il y a un certain côté compétitif, là, même certains scandales qui ont éclaté dans le passé en lien avec le football collégien américain. Là. C'est pas tout le temps beau. L'Université de Notre-Dame a connu un début de siècle difficile. Des changements de coach très fréquents, presque à chaque année, la mort d'un des joueurs, des allégations d'abus sexuels et de très mauvais scores. Par contre, en 2009, une poignée de joueurs, incluant Manti Te'o et un nouveau coach, vont redonner de la vigueur à l'équipe de Notre-Dame. Au cours de ses 4 années dans l'équipe, Manti va briller au sommet. Il réalise 437 plaquages en 4 ans, ce qui l'amène au 3e rang du record de tous les temps pour la Ligue. Il va jouer 47 matchs en ligne, qui est le record du monde pour un linebacker collégial. Donc, c'est pas rien.
Non, hein?
Dans son article, le journaliste Pete Tamel le décrit comme un des meilleurs espoirs de la NFL pour les années à venir. Il ne lui reste que quelques mois avant de devenir millionnaire. Toutefois, malgré le succès au football, il vit beaucoup d'épreuves personnelles qui le distraient de sa carrière. Le 12 septembre 2012, à 7h du matin, Manti reçoit un appel de ses parents en direct d'Hawaï, sa région natale, pour l'informer du décès de sa grand-mère âgée de 72 ans, de cause naturelle. Manti, qui est très proche de ses parents, est dévasté. Mais quelques heures plus tard, alors qu'il était dans le vestiaire de son équipe de foot, il reçoit un appel du frère de sa copine, un dénommé Koa, pour l'informer que celle-ci, atteinte de leucémie, vient elle aussi de décéder. Donc un double drame ce jour-là pour Manti Te'o. Il lui dira simplement « Elle est partie » via un message texte. Manti est complètement sous le choc. Il avait rencontré sa copine, Lene Kekua, il y a quelques années, mais sont ensemble officiellement là, depuis environ 4 ans. Elle aussi athlète, qui est une joueuse de volleyball, partageait le même style de vie que Manti. Plus tôt en avril, l'aînée avait subi un grave accident de voiture. Elle a été heurtée par une personne ivre au volant, la laissant hospitalisée pendant une durée de 2 mois. Elle a même fait là, du coma là, pendant ce temps-là.
Ouais.
Suite à cette hospitalisation, les médecins ont découvert qu'elle était aussi atteinte d'une leucémie à un stade très avancé. C'est la première fois dans l'article de Sports Illustrated que Manti partageait les graves épreuves qu'il vivait depuis quelques semaines. À ce moment-là, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre auprès des médias journalistiques. Mais avant d'aller un peu plus loin, qui est Manti Te'o, Seb?
Manti Malietao Louis Te'o est né le 26 janvier 1991 à Lahi, sur l'île d'Oahu, à Hawaï. On s'excuse d'avance là, pour la prononciation, parce qu'il y a vraiment beaucoup de noms non-hawaïens dans cet épisode-là. Là, c'est pas toujours évident à prononcer. Ses parents sont Brian et Otilia Te'o. Il y a 5 frères et sœurs. Ses parents ainsi que lui-même sont des membres actifs de l'Église des Mormons. D'ailleurs, ils ont choisi son nom, Manti, en raison d'un des personnages dans le Livre des Mormons. Il fréquente l'école secondaire de Punahou, la même qu'a fréquenté Barack Obama, qui est l'ancien président des États-Unis, où il excelle au sein de l'équipe de football. Il connaît une popularité nationale même à l'école secondaire. Il est dans la liste des équipes de rêve du USA Today. Il remporte tous les prix d'athlète de l'année, de son calibre bien sûr. Il reçoit plus de 30 offres de d'autres collèges qui souhaitent le recruter après son secondaire. Son choix s'arrêtera sur le collège de Notre-Dame, qui est situé à South Bend, dans l'État de l'Indiana. Il va rejoindre leur rang en septembre 2009. Manti, il se plaît bien au collège, il profite de la vie étudiante à Notre-Dame. On le sait là, toujours, quand on arrive au collège ou à l'université, c'est tout le temps trippant. Hein, t'sais, y a une énergie super positive. Puis lui, il vient quand même de se faire recruter par le Notre-Dame. Donc, la vie va bien pour lui. Là.
Oui, quand même.
En novembre 2009, il reçoit une demande d'amitié via Facebook d'une certaine Lene Kikua. Selon son profil, elle a 19 ans, elle est étudiante à l'université de Stanford en Californie. Elle semble sportive tout comme lui. Bien sûr, il accepte sa demande d'amitié. Il initie une conversation avec elle en se présentant. « Salut, je suis Manti. » Ils commencèrent à échanger par texto, mais rapidement, ils ont commencé à s'appeler au quotidien. Selon lui, Lene était une fille qui était formidable, qui partageait exactement le même style de vie que lui. Elle était athlétique, elle jouait dans une équipe de volleyball de l'université de Stanford. Elle était douée pour les sports. Elle était aussi douée pour la musique et les arts, en plus de parler plusieurs langues.
Oui, ça semble être une histoire d'amour très idyllique, là, presque oui. Digne d'un film où justement la star de foot rencontre la cheerleader. Mais dans ce cas-ci, c'est une joueuse de volleyball, mais ça semble presque trop beau pour être vrai. Tout semble bien aller pour les deux. C'est comme une idylle de rêve. En plus, Manti est dans une carrière là avec un brillant avenir oui. Au niveau du football. Là, il est recruté par cette école-là qui est quand même assez prestigieuse au niveau du football. Oui. Apparemment qu'il aurait choisi cette école-là aussi en raison de son esprit très catholique aussi.
Ah, okay.
Manti est croyant, bon, de l'église des Mormons, mm-hmm. Donc c'est très important pour lui l'aspect religieux, mm-hmm. Et c'est une des raisons pour lesquelles il a choisi le collège de Notre-Dame dans les 30 offres là, okay. Qu'il avait reçues. À cette époque-là, c'était pas l'équipe de foot collégiale non. La plus performante, donc il aurait sûrement pu trouver mieux, même sachant que sa copine était à Stanford. Ils ont une équipe ouais. De foot, eux aussi. Mmh. En Californie, il y en a plusieurs. Donc, lui, il a vraiment choisi d'aller dans l'Indiana, là, dans le Midwest,
ouais.
Pour poursuivre sa carrière au collégial, là, ce qui est quand même un choix particulier, mais réfléchi selon ses valeurs.
Oui, parce que ça permet aussi de se démarquer. Hein. Si t'es le meilleur, ou si t'es très bon dans une équipe où il y a beaucoup, beaucoup de bons joueurs,
c'est vrai.
D'une certaine manière, tu te démarques peut-être moins d'une équipe où il y a moins de bons joueurs. Là. Ça faisait peut-être aussi partie de
oui,
ces
c'est
raisons.
Vrai. Big fish in a small pond.
Oui, exact.
La relation entre les deux tourtereaux semble s'intensifier là, au cours de 2010 et 2011. Ils sont réellement amoureux. Des soupçons émanent là, parfois de la part de Manti sur l'existence de l'aîné et y en discute avec son entourage. Mais tout semble si réel que ni un ni l'autre n'en fait de cas sérieux.
Parce qu'ils se sont jamais rencontrés encore en personne. Là,
exact.
À ce moment-là. Là. Puis ça fait quand même pratiquement 2 ans, là, 1 an ou 2, là, qu'ils ont une relation complètement virtuelle, là, que par oui. Téléphone ou texto.
En 2011, ils commencent à flirter de plus en plus, entre autres sur Twitter. Manti va utiliser même le hashtag LMK pour identifier leur conversation, étant donné qu'elle s'appelle Lene Marie Kekua. Donc
ouais.
C'est pour ça qu'il a comme inventé un genre de hashtag. À cette époque, le pseudonyme Twitter de Lene était Lova, Lova, Love You.
Oui.
Mais elle va aussi utiliser d'autres pseudonymes au fil du temps, comme Lene K et finalement plus tard Love MSMK. On va y revenir là, mais elle va avoir plusieurs profils Twitter différents. À Noël 2011, Manti dit à sa famille que Lene s'en vient passer quelques jours à Hawaï. Il est dans sa famille pour le temps des fêtes et il demande à son père s'il peut aller dormir chez un ami où il pourra la rencontrer. Donc il est très excité à ce moment-là. Par contre, à la dernière minute, il semblerait que l'aîné a un contretemps et puis ils peuvent pas se voir finalement chez son fameux ami.
Non, c'est ça, exact.
Au début de l'année 2012, Manti et l'aîné deviennent officiellement en couple parce que jusqu'à présent, c'était une amitié, ils flirtaient beaucoup, mm-hmm. Ils s'échangeaient des messages intimes, mais ça semble vraiment au début 2012 qu'il y a véritablement là, un amour qui va se développer puis ils vont être officiellement en couple sur les réseaux sociaux.
Ouais, parce qu'ils habitent loin quand même l'un de l'autre aussi là.
Oui.
Lui il est dans le Midwest puis elle est dans l'Ouest américain là.
Exactement. Ils parlent au téléphone chaque soir. Ils se confient et maintiennent une relation très romantique parce que c'est un grand romantique, Manti.
Mm-hmm.
Ils s'écrivent aussi des lettres, des vraies lettres. Là. Ils échangent sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook et Twitter, qui va devenir leur plateforme de correspondance privilégiée. Plus tard, en 2012, le conte de fées tourne au drame. Lene est victime d'un accident de voiture en Californie. Elle a été frappée par un chauffeur ivre. Elle va tomber dans un coma profond. Manti va alors développer une relation avec le frère de Lene, un certain Koa, qui va le tenir au courant des développements à l'hôpital. La pauvre va rester plusieurs mois hospitalisée après un long coma. Manti va expliquer aux journalistes qu'il s'endormait avec le téléphone sur lui toute la nuit afin de se réveiller avec le son de son souffle à chaque matin. Il était même présent au moment de son réveil du coma et elle a chuchoté son nom. Donc lui, il faisait des longs appels de plus de 8 heures, oui, juste pour entendre le souffle de sa voix à l'hôpital. Donc il était très dédié à sa copine, même alors qu'elle était hospitalisée.
Mais étrangement, il n'est jamais allé la voir à l'hôpital durant son hospitalisation de plus de 2 mois à l'hôpital. C'est quand même...
C'est vrai.
C'est weird.
On va y revenir.
Suite à son réveil du coma, les médecins lui diagnostiquent une leucémie et elle est déjà à un stade avancé. Manti est atterré. L'amour de sa vie semble subir un mauvais sort. C'est assez veg, là, parce que, tu sais, un accident de voiture, après ça, 2 mois plus tard, elle se réveille du coma de son accident de voiture, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer, qui est la leucémie, là, qui est quand même un cancer grave, là, que généralement, souvent, les gens meurent, là, même, là.
Mais tu sais, parfois, ça prend une certaine maladie pour qu'on en diagnostique une autre, hein.
Oui.
Donc, on va lui laisser le bénéfice du doute.
Oui. Environ 2 semaines plus tard, le 12 septembre 2012, quelques heures après que sa grand-mère soit décédée, comme on vous a parlé au début de l'épisode, là, sa grand-mère est morte le 12 septembre 2012, là, justement, avant un match de football.
Mm-hmm, de cause naturelle.
Oui. L'aîné meurt après un court combat contre la leucémie. Donc, la même journée que sa grand-mère meurt, l'aîné aussi meurt de la leucémie.
Donc, double deuil pour Manti Théo ce jour-là.
Imaginez, là, ça doit être horrible ce qu'il devait vivre en dedans de lui, là. Les semaines précédentes, durant son hospitalisation, comme on vous disait, là, il se parlait quotidiennement au téléphone. Et même des membres de sa famille ont dit que les membres de la famille de l'aîné disaient que le fait d'entendre sa voix faisait augmenter ses battements cardiaques et aidait l'aîné là, dans sa condition à reprendre un peu d'énergie.
Mm-hmm.
Avec tous ses malheurs, Manti reçoit beaucoup de soutien de la part de ses proches et bien sûr de l'Université de Notre-Dame. Manti, il n'a jamais manqué une partie. 4 jours plus tard, après justement le double décès, là, sa grand-mère et sa copine, Notre-Dame affronte les Michigan State dans le cadre du BCS National Championship. Ils ont gagné 20-3 et Manti a offert toute qu'une performance. Quelques jours auparavant, il a tweeté: « Je ne peux plus entendre ta voix maintenant, mais je peux toujours sentir ta présence.
Mm-hmm. »
En parlant de l'aîné.
Oui, lorsqu'il joue et qu'il gagne des matchs.
Oui, exactement.
Parce que je crois qu'il lui avait promis de ne jamais manquer aucun match. Elle lui avait fait promettre que malgré l'hospitalisation et sa maladie, lui, il fallait qu'il se donne corps et âme à son sport.
Oui, exact. C'est exactement ça. Cette histoire de compagne décédée va contribuer bien sûr au mythe de Manti Théo, le jeune joueur au cœur brisé qui ne manque aucun match, qui bat des records, qui a un certain aura là, qui entoure la jeune vedette. Tous les médias s'arrachent des entrevues avec lui, dont le fameux Sports Illustrated qu'on a mentionné au début de l'épisode. On s'entend, là, c'est ce genre d'histoire-là, là, les médias en mangent, là, tu sais, puis même parce que les gens aiment ça, lire des histoires un peu tragiques.
Oui.
Comme ça, là, il y a un côté human, là, très intéressant, là, ça dépasse le football. Là.
Oui, puis c'est une histoire qui est quand même émouvante, là, et ben inspirante, oui, pour les amateurs de football, puis on sait qu'aux États-Unis, c'est très émotif, oui, le football aussi. Là.
Ah oui, c'est quasiment comme un parti politique, là, ça fait partie intégrante de leur vie. Il va aussi témoigner à la télé et lire en public les lettres qu'il recevait de l'aîné lorsqu'elle était hospitalisée. Il va lui-même écrire à un jeune fan qui est atteint de leucémie pour lui offrir son soutien. Il va même décrire dans un journal local son conte de fées avec l'aîné, incluant bien sûr sa rencontre avec elle après un match de Notre-Dame. Toutefois, je tiens à vous rappeler que, selon sa version des faits, là, comme on vous a dit dans le début d'épisode, selon lui, il l'a rencontré sur Facebook à la base. Donc là, il y a comme 2 versions... de sa rencontre avec l'aîné. Là. C'est un peu bizarre. Là. Pourquoi qu'il aurait justement décrit leur rencontre en personne après un match? Puis d'une autre version, ben, c'est une demande d'amitié sur Facebook qui a été le point de départ.
Oui, une contradiction ici.
Cependant, il y a certains médias qui trouvent cette histoire un peu surréelle et souhaitent creuser un peu plus loin. C'est le cas de Deadspin, un site web sportif à caractère sarcastique.
Exactement, Seb. Imagine-toi donc qu'en janvier 2013, donc quelques mois après le décès de l'aîné,
oui,
Deadspin vont écrire un article qu'ils vont titrer « La mort de la copine de Manti Théo, l'histoire la plus émotive et la plus inspirante de l'année au football collégien est une arnaque ». C'est très louche jusqu'ici. Le 16 janvier 2013, les journalistes Timothy Burke et Jack Dickey du blog de sport Deadspin reçoivent un email anonyme à propos de Lenny Kekua. Ils décident alors de mener leur enquête. Ils vont se mettre à regarder des faits un peu plus précisément parce qu'on s'entend, cette histoire-là a fait le tour du monde, surtout aux États-Unis, ça a fait parler énormément et tout le monde voit Manti Te'o un peu comme une vedette au cœur brisé, footballeur très performant, mais en même temps déchiré par le deuil. Donc, mais il semble qu'il y a très peu de gens qui ont vraiment checké les faits là, ici. Ouais. C'est ce que Deadspin va commencer à faire. Donc, ils vont se mettre à vérifier toute la chronologie des événements. Tout d'abord, une demoiselle du nom de Annette Santiago, la grand-mère de Manti, est bel et bien décédée le 11 septembre 2012. Donc ça, c'est vrai. Il y a des enregistrements qui sont faits là, aux services sociaux américains de ce décès dans des bases de données publiques. Les décès, généralement, c'est assez simple à vérifier. Oui. Et rappelons-nous, la grand-mère de Manti n'est pas quelqu'un de connu du grand public, là, mais on trouve quand même de l'info sur son décès en ligne, en cherchant assez facilement. Toutefois, personne du nom de l'aînée Marie Kekua n'est décédée le même jour, ni dans les jours qui suivent, selon le même registraire des services sociaux. C'est assez louche. C'est quand même assez particulier, puisqu'il y a eu des tonnes d'articles de journaux relatant la fin tragique de cette histoire d'amour. Faut pas oublier que l'aînée Kekua était quand même une fille populaire au collège, là. Elle avait une forte présence sur les médias sociaux et il y a eu aucune publication relativement à sa mort de publier, outre les articles autour de l'histoire de Manti Te'o. Ouais. Donc c'est comme si elle existait surtout là, grâce aux articles de Manti Te'o, puis les gens pensaient que c'était vrai. Donc c'est-à-dire que quand on la Google, tout a l'air vrai parce qu'on trouve des articles dans le New York Times, dans le USA Today, mais il semble qu'elle, en tant qu'individu, là, qu'il soit pas lié à Manti Te'o, c'est très difficile de trouver de l'information. Aucun avis de décès, aucune page hommage sur les réseaux sociaux ou aucun autre événement relatif à ses funérailles sont trouvables sur le web. C'est encore plus louche aux yeux des deux journalistes. Par ailleurs, sur Twitter puis sur les médias sociaux, il y a énormément d'activités. Donc, Manti Te'o, évidemment, va tweeter à propos de ça. Il y a énormément de gens, il y a des centaines de gens là, qui vont lui répondre en lui disant « rest in peace », en lui disant à quel point elle va leur manquer. Donc, elle reçoit énormément de sympathie sur Twitter, entre autres, malgré le fait que c'est très difficile de trouver des traces réelles de son décès.
C'est fou hein, comment les... Ben, puis tu sais, on peut pas les blâmer, mais les journalistes font pas de recherche. Hein, tu sais, dans le fond, ils ne font que citer Manti sans aller plus loin. Ils font que relater la nouvelle sans pousser plus les recherches. On peut pas les blâmer là, parce que je sais que eux, l'histoire de Manti Te'o, c'est peut-être un cinquième ou un dixième de leur journée. Là, ils ont peut-être 5 articles à écrire sur un autre sujet. Mais je trouve que ça, comme plein d'histoires qu'on a couvertes, qui démontrent un peu des fois que le travail journalistique... Pas qu'il est bâclé, mais disons qu'il va jamais en profondeur quand ils énoncent une nouvelle ou qu'ils parlent de certains individus, ils font pas de recherche sur lui.
C'est vrai. En plus de cela, il n'y a aucune trace de l'aînée comme étudiante à Stanford. Donc là, c'est encore plus encore plus louche. Aucune trace de sa présence à l'université à part quelques tweets. Bref, cette femme semble être une véritable énigme. En fait, toute son histoire semble être officialisée via sa relation avec Manti. Elle vit sur le web grâce aux interviews que Manti donne aux médias, ce qui lui donne beaucoup de crédibilité. Donc, ils vont refaire la chronologie des événements grâce à ce qu'on y dit dans les médias. Donc là, faut essayer de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Le 28 novembre 2009, on remonte dans le temps, le South Bend Tribune, qui est un peu le journal local de l'Université Notre-Dame, de la région de la ville où se situe l'université, c'est là que Manti décrit qu'il a rencontré l'aîné après une défaite de Notre-Dame contre Stanford. Une étrangère l'aurait aperçu et lui aurait souri, ils auraient échangé leur numéro de téléphone. Donc, selon cet article du journal-là, ça serait le 28 novembre 2009 qu'il aurait rencontré l'aîné pour la première fois en personne, dans un stade, alors qu'il jouait contre Stanford. Donc, selon ce qu'il a raconté aux médias. En 2010-2011, dans plusieurs interviews du South Bend Tribune, Manti ainsi que son père Brian expliquent que l'aîné et Manti développent une belle relation, que l'aîné vient souvent à Hawaï chez un ami commun et que c'est là qu'ils se rencontrent dans la vraie vie. Donc ça, c'est encore quelque chose qu'il a raconté aux médias. Par contre, en vrai, elle trouva une excuse. Elle n'a pas pu se rendre car elle était coincée à l'hôtel à cause de la voiture de son cousin.
C'est une drôle de raison, hein?
Oui, hein? Cependant, Manti, lui, là, il a menti à son père, car il savait que si l'aîné avait encore une excuse, son père lui dirait de laisser tomber cette relation, et Manti ne voulait pas que ça arrête, là.
Non, puis c'est pas la première fois, ça a l'air qu'il mentait justement à ses parents à propos de visites de l'aîné, mais à chaque fois, c'était faux, en fait. Elle est jamais venue le voir.
Mm-hmm. Puis il faut pas oublier que les parents de Manti parlaient souvent aux médias parce que
oui.
Les parents devenaient un peu des personnages secondaires dans toute cette épopée là, de décès et de vedettes du football américain. Au cours de 2012, l'aîné aurait eu son supposé accident là, quelque part en Californie. Mais les sources ne s'entendent pas sur le moment exact. Il y a ESPN qui mentionne février, mais Sports Illustrated mentionne avril. Malgré tout, il n'y a aucune façon de confirmer, selon les rapports d'accident, le moment et le lieu exact ouais. de cet accident-là. Mais à un certain moment, Manti va donner une entrevue avec Katie Couric, qui est animatrice de télé
ouais.
Et politicienne. Et lui, il confirme selon lui que c'est le 28 avril qu'elle aurait eu cet accident-là. À l'été 2012, l'aîné subit une transplantation de moelle osseuse, justement en lien avec sa leucémie qu'on a diagnostiquée. Elle se porte bien apparemment, tel que rapporté par Manti et son père à certains médias. Son père va même lui envoyer des textos d'encouragement. Donc les parents de Manti ont aussi une belle relation avec l'aîné, ouais. même si c'est essentiellement virtuel. C'est là aussi, à l'été 2012, qu'elle va graduer de l'Université de Stanford, selon un article du New York Times où l'histoire de Manti est relatée. Donc là, c'est quand même particulier parce que c'est difficile de trouver des articles officiels de l'Université de Stanford où les étudiants sont listés. Donc
ouais.
là, on n'arrive pas à la trouver dans la liste des étudiants de Stanford, pardonnez-moi, mais... il y a quand même un article du New York Times qui l'a décrit comme une graduée. Donc, tu crois qui, là? Est-ce que tu as tendance à croire le New York Times ou à croire tes propres recherches? Eh bien, la plupart des gens vont croire le New York Times.
Oui, ben oui.
En septembre 2012, c'est là que la grand-mère de Manti meurt, mais l'aîné vit assez longtemps pour souhaiter ses condoléances à Brian et Ottilia, là, les parents de Manti. Il va leur envoyer un texto. Quand même sympathique de sa part. Quelques heures plus tard, c'est là que la copine de Manti meurt elle aussi. Mais là, plusieurs sources se contredisent sur le moment exact de sa mort. Même nous, on a eu de la difficulté à trouver la vraie date. Est-ce que c'est le 11 septembre, le 12 septembre? Il y en a qui disent que c'est même plus tard, que c'est plusieurs jours plus tard. Donc, c'est difficile à savoir exactement la vérité là-dessus. Les derniers mots de l'aîné à Manti vont être « I love you » qu'elle va lui texter.
Mm.
Donc, c'est difficile de trouver des meilleurs mots en guise de dernier texto avant de quitter le monde des vivants. Le 22 septembre maintenant, c'est là que les funérailles de l'aîné ont lieu dans la ville de Carson, en Californie. Donc, il y aurait des vraies funérailles. Par contre, Manti n'y assiste pas, car l'aîné lui aurait fait promettre de ne manquer aucun match de football. Mais en même temps, c'est particulier, c'est l'amour de sa vie,
oui.
Donc pourquoi il assiste pas aux funérailles?
Ben oui, tu peux pas faire ça, mais ça fait pas de sens. C'est le genre de choses que tu peux regretter toute ta vie. Là. Une partie de football, là, ça a une importance, mais on s'entend que sur l'ensemble d'une vie, c'est pas si important que ça.
Oui, exactement. Ceci dit, ben Notre-Dame gagne le match et le coach de l'équipe dédie la balle de match là, à l'aîné Kekua publiquement dans le stade. Donc, ils veulent faire une allocution pour dédier là, le ballon du match à la copine de Manti Te'o qui est décédée plus tôt. Encore une fois, là, il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire de funérailles, car imaginez-vous qu'il n'y a pas de ville de Carson en Californie. Cette ville-là est introuvable. Donc, ça commence bien. Donc, même s'il aurait voulu, Manti n'aurait pas pu se rendre aux funérailles. En analysant l'historique des tweets entre Manti et l'aîné, on se rend compte qu'ils ne se sont pas rencontrés en 2009 après un match, mais bien sur Twitter en 2011, où ils ont commencé à flirter légèrement ensemble. L'aîné a effectivement changé de compte et d'avatar à plusieurs reprises, rendant les pistes numériques presque inexistantes. Donc, Deadspin ont réussi à trouver le tweet original où ils se seraient rencontrés. Mais on se rappelle que Manti a déjà dit à d'autres médias qu'ils se sont rencontrés en 2009 lors d'un match entre Notre-Dame et Stanford. Mm. Puis à d'autres moments, il a même dit à d'autres médias qu'ils s'étaient rencontrés sur Facebook. Donc, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Mm. À certains moments, Manti et son père doutent de l'existence réelle de l'aîné. Cependant, pour le rassurer, elle lui envoie une photo avec les mots « MSMK » écrits sur un papier pour authentifier son compte Twitter. À l'époque, c'était « I love MSMK », ce qui rassure tout le monde. Bon, apparemment que MSMK, ce serait un terme religieux pour « My Savior, My King
okay. ».
C'est ce qu'on c'est ce qu'on prétend.
Oui, oui.
Donc, tu sais, un peu comme sur Reddit, quand on fait des Ask Me Anything, on te demande de d'écrire ton nom sur un papier pour confirmer que c'est bel et bien toi, que c'est pas quelqu'un d'autre qui utilise cette identité-là. Donc, elle a fait ça. Ils lui ont demandé une photo. Et puis, l'aîné a pris une photo avec MSMK écrit sur une feuille de papier. Puis, elle l'a envoyé à Manti, même son père. Donc, ça aura comme effet de rassurer tout le monde.
Ben oui.
Ils vont effectuer aussi des recherches inversées d'images sur Google. Là, je parle de Deadspin qui poursuivent leur enquête. Là. Et un peu partout, ils vont se rendre compte que les réseaux sociaux de l'aîné Kekwa semblent être de véritables mises en scène.
Était derrière la photo de l'aîné Kekwa. Les images de Kekwa publiées dans les médias étaient en réalité celles appartenant à une certaine Diane O'Meara, qui avait 22 ans au moment des faits. Elle ignorait totalement que quelqu'un utilisait ses photos sous une autre identité. La plupart des photos étaient croppées pour empêcher de faire des recherches avancées, justement pour éviter de faciliter la recherche inversée, par exemple. Les journalistes de Deadspin lui ont envoyé les photos qui circulaient sur Twitter. Et elle a confirmé qu'elle provenait bel et bien de ses différents comptes Facebook et Instagram. Mais ces comptes-là, ils étaient privés. Donc, c'est sûrement quelqu'un qui avait accès à ses photos, donc sûrement une connaissance sur son réseau, là, soit un ami Facebook ou un ami Instagram.
Oui, étant donné que ces deux comptes étaient privés, si quelqu'un lui a volé ses photos, c'est nécessairement un de ses amis virtuels, du moins.
Oui, mais comment expliquer l'inscription MSMK là, que Émile parlait tout à l'heure, là, qu'elle a postée sur Twitter pour confirmer son authenticité? Seul l'aîné, bien sûr, aurait pu prendre cette photo après tout. La photo, c'est la vraie personne, c'est bien Diane qui l'a prise. Lorsqu'elle a été questionnée justement à ce propos-là, elle explique que c'est une connaissance du secondaire qui l'aurait contactée sur Twitter en lui demandant de prendre cette photo-là pour un ami qui la trouvait jolie. Elle a trouvé que ça, c'était quand même une drôle de demande, là, mais elle l'a fait de bon cœur. C'est tout de même une piste intéressante là, parce qu'on commence à avoir un lien là, de où proviendrait cette photo-là. Mais qui est justement cet ami mystérieux là, qui a fait cette demande-là?
Ouais.
C'est un certain Honeya Tuiya Sosopo. Un autre nom assez difficile à prononcer. Là.
On va l'appeler Ronaya.
Ronaya, oui. Elle décide donc de le contacter car elle trouve ça plutôt glauque que ses photos se retrouvent sur le profil Twitter d'une fille décédée. Là. Je vous rappelle qu'elle est morte, là, l'aînée, là, puis ça a été public. Là. Donc, elle trouve ça vraiment étrange. Aussitôt qu'elle parle de ça à Ronaya, il a tout de suite affiché un ton alarmiste, puis soudainement, toutes les photos, par hasard, ont disparu du profil de l'aînée.
Ah, c'est curieux.
Elle a compris tout de suite là, qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas là, avec ça. Là. Elle a tout de suite compris à qui elle avait affaire.
Justement, parle-nous un peu, Seb, de qui est ce Ronaya, parce que ça semble être lui jusqu'à présent là, qui est derrière le profil de l'aîné.
Ronaya Tuiya Sosopo, qui avait 22 ans lui aussi au moment des faits, le même âge que Diane, est un ancien joueur de football lui aussi du secondaire, très talentueux, il vient du sud de la Californie. Il a obtenu son diplôme d'études secondaires et lui, il est devenu musicien à l'église chrétienne Oasis Christian Church of the Antelope Valley. Ronaya, il a même auditionné pour la célèbre télé-réalité The Voice sur NBC, mais il n'a pas été choisi parmi les candidats. Mais juste pour vous dire, Ronaya, c'est un homme, là. Mm-hmm. Et l'aîné, c'est une femme. On continue. Son lien avec Diane, justement, sur la photo, il est où? En fait, Diane, c'était une ancienne camarade du secondaire de Ronaya. Elle n'était pas vraiment proche de lui à l'époque. Elle ne lui a que parlé 2-3 fois. Mais il lui a quand même avoué, parce qu'il l'a appelé pendant un bon 45 minutes pour s'excuser, qu'il avait traqué vraiment son profil Facebook pendant plus de 5 ans.
Oh.
Puis il avait volé toutes ses photos pour créer justement le personnage de Kekua. Ronaya aussi nous explique pourquoi il a déclenché la mort de l'aîné le matin même de la mort de la grand-mère. En fait, c'est qu'il s'est chicané, le personnage de l'aîné s'est chicané avec Menti le matin même parce qu'il l'aîné a reproché à Menti de skyper d'autres filles pendant que elle était à l'hôpital. Là, il y a eu quand même différents échanges assez houleux entre les deux, là, au point de dire que je t'aime plus du tout, j'ai plus besoin de toi et je te veux plus. Mais de l'autre côté, l'aîné, elle lui a comme dit, c'est correct, on abandonne tout, oublie tout, je vais toujours t'aimer, mais je te laisse partir. Ce qui est quand même, un peu bizarre, là. Finalement, ça s'est conclu que Menti lui a vraiment dit « Je n'ai plus besoin de toi, je n'aurai plus jamais besoin de toi, je ne veux plus jamais te parler, je ne veux plus jamais te voir. » Et oui, je parle avec 4 autres filles sur Skype, dont 2 ex-petites amies.
OK.
Fait que là, ça en était assez pour l'aîné Ronaya, que lui, là, il trouvait déjà quand même ça lourd là, depuis un certain temps, parce qu'il menait d'une certaine manière une genre de double vie. Il fallait qu'il maintienne un mensonge d'accident de voiture, un mensonge, tu sais, d'être atteint d'un cancer. Même tout ça, là, ça devenait lourd pour lui. En fait, la raison de l'accident de voiture qui est arrivé quand même juste quelques mois plus tôt et le cancer, c'est qu'il commençait déjà à vouloir rompre, en fait. Puis pour lui, on dirait que c'était comme la seule manière, c'était quasiment de tuer le personnage. Pour lui, il voyait ça comme une facilité, du moins, pour rompre avec lui.
C'est une façon un peu brutale d'annoncer une fin de relation en décidant comme ça de mourir.
Absolument, tu sais, c'est tout, en fait, toute cette histoire-là est tellement, c'est comme si c'était pas réaliste, tu sais, de maintenir si longtemps une relation virtuelle tout en se disant que tout va bien. D'ailleurs, la photo du crash de voiture que l'aîné elle avait envoyé à Menti au moment des faits était une photo réelle d'un crash que justement Ronaya a subi, lui. Il s'agissait probablement donc d'une des seules photos qui était vraiment authentique prise par celle-ci.
Ouais.
Parce que oui, il y a eu un vrai accident, là, on va y revenir un petit peu plus tard. Il dit avoir fait ça pour s'évader aussi, car il a eu une enfance malheureuse. Il a malheureusement été abusé par un ami de son père qui était proche de l'église des Mormons dès l'âge de 12 ans. Il a avoué que ses sentiments envers Menti étaient sincères et authentiques. Et même, il se questionne beaucoup, il s'est beaucoup questionné sur son homosexualité, mais il ne se comprend pas vraiment lui-même, puis il est très, très confus par rapport. Mais ça, c'est du moins au moment des faits, là, quand c'est arrivé, là, tout ce dévoilement-là, là, il était vraiment mêlé sur son orientation sexuelle. Dans les entrevues, même, il fait souvent référence à la vie de l'aîné, comme s'il possédait une double personnalité, comme si c'était vraiment un genre d'alter ego féminin, là. Même il y a des journalistes qui remettaient en question sa stabilité mentale parce qu'il parlait, il parlait vraiment comme une autre personne, comme s'il parlait. C'était vraiment étrange.
Ouais. Et il est même allé à Dr. Phil, hein, le célèbre psychologue animateur de show télé américain.
Oui, un genre de psychologue, pour ceux qui le connaissent peut-être pas, là, un genre de psychologue populaire. Puis justement, il a quand même tendance à challenger un peu tout le monde.
Mm-hmm.
Puis même Dr. Phil, il est allé quand même loin parce qu'il y avait certains doutes sur la véracité. Est-ce que Ronaya était vraiment celui qui prétend être? Est-ce que c'était lui qui avait vraiment créé le personnage de l'aîné? Parce que c'était une voix, l'aîné, là, vous ne pouvez pas l'entendre, là, mais si vous faites des recherches, l'aîné, elle avait quand même une petite voix aiguë de fille.
Mm-hmm.
Et Manti, il a toujours pensé qu'il parlait à une fille. puis ils ont fait faire des tests, ils ont fait analyser la voix de Ronaya et des messages vocaux qu'il avait déjà enregistrés sur les boîtes vocales de Menti, et ça correspondait. Mais c'est vraiment, vous pouvez le chercher sur YouTube, là, vous allez le voir, cet extrait-là, puis on voit vraiment, il est bon pour imiter une voix de fille, c'est des tonalités assez impressionnantes, puis il n'y a pas une voix si féminine que ça dans la vie, là. Tu sais, il n'y a pas une voix hyper grave, mais quand même, là. Ah oui, selon Deadspin aussi, dans l'article, ça a l'air qu'ils se connaissaient, qu'ils s'étaient quand même déjà rencontrés.
Oui.
Pendant un match de football, là, de ce qu'on a lu. En fait, c'est un de ses oncles, que lui, il s'occupe quand même du football secondaire aux États-Unis, puis grâce à ça, à un moment donné, ils se sont vus après un match. Mais d'une autre source, le même oncle a démenti le connaître. Fait que là, je suis un peu mélangé à savoir, tu sais, est-ce que Deadspin ont la véritable information, ou après l'oncle, peut-être qu'il voulait plus être achalé, puis il a dit que c'était pas vrai. Donc ça, là-dessus, je dois vous avouer qu'il y a comme deux sources là, par rapport au fait s'ils se connaissaient ou non.
Oui, il y avait même un tweet, je crois, de Ronaya qui disait à un certain moment « It was nice to meet you, bro ». Donc, et à un certain moment, Manti avait même tweeté à Ronaya en lui disant « Si tu viens à Hawaï, fais-moi signe.
Okay. »
Donc, ouais. est-ce que ça prouve, je veux dire, c'est possible que Ronaya ait écrit un faux tweet, puis que, bon, Manti en est pas fait de cas, mais on a l'impression qu'ils se sont peut-être déjà rencontrés dans la vie, là.
Ouais, c'est vrai que ça donne cette impression-là. Même le jour même que l'article de Deadspin est sorti, là, donc que toute l'histoire a été mise au grand jour, Ronaya a pris quand même son courage à deux mains, il a appelé Menti, mais quand Menti a décroché, il a quand même répondu « Hi, c'est l'aîné qui est là », comme si c'était l'aîné qui l'appelait. Mm-hmm. Puis, tu sais, elle est morte depuis 3 mois, là. Il a tout avoué. Menti est devenu fou de rage, là. Il comprenait pas pourquoi qu'il lui avait fait ça, là. Imaginez pour lui qu'est-ce que ça doit être. Ça, mais il avait été avisé hein, le 26 décembre, en fait, de l'année précédente, à la fin de l'année. L'équipe avait été mise au courant, puis lui aussi, qu'il y avait un hoax là, par rapport à ça. Là, même avant que l'article, un petit peu avant que l'article de Deadspin sort, la famille et l'équipe avaient été mis au courant de ça.
Mm-hmm. Ce qui avait fait quand même beaucoup de vagues là, dans le monde du football collégien.
Ben oui, c'était tellement gros, tu sais, puis c'est ça, c'est qu'on a de la misère à comprendre qu'un joueur si populaire peut se faire avoir comme ça.
Ben oui.
Dans la fin de sa discussion avec Ronaya, Menti lui a juste dit qu'il voulait plus jamais lui parler, puis qu'il disait que ça, l'aînée à lui, elle était morte le 12 septembre. Et encore là, on a une référence du 12 septembre, selon d'autres sources, c'est le 11, mais bref, lors de sa mort. Ce qui est étrange, par contre, Ronaya, il était pas dans ses mensonges. C'était toujours, il y a certains mensonges qui étaient collés un peu sur ce que lui vivait dans sa vie. Comme par exemple, il y a vraiment un de ses oncles, Jasmine Lutu, que lui combattait une leucémie, là, une leucémie lymphoblastique aiguë, et puis que justement, il a reçu une greffe de moelle osseuse là, par la suite. Fait qu'on voit qu'il mélangeait un peu les histoires. Bien, il reprenait des histoires de sa vie, puis il les appliquait à l'aîné. Il y a un autre l'accident de voiture, justement. Il y a eu un accident de voiture, mais on n'a pas les détails de la date. La police ne veut pas dévoiler ces détails-là, même les blessés et tout ça, mais il y a vraiment eu un accident de voiture. Il a été hospitalisé aux soins intensifs, mais vraiment d'une courte durée. Là. Il n'est pas resté 2 mois à l'hôpital. Lors de la fameuse journée tragique là, en septembre, là, où la grand-mère et la blonde de Menti est décédée, Menti avait une pratique de football avec les joueurs. Il a fait un speech à ses coéquipiers. Je vous lis en anglais. « My girlfriend always told me, send roses while they can still smell them. Tell people you love them while they can still hear. » Donc,
poétique.
Oui, c'est très poétique. Mais cette même phrase-là, Ronaya l'a postée sur le wall Facebook d'un des membres de sa famille, justement, qui était décédé. Fait que ces trois éléments-là ont quand même été, disons, c'est certains parallèles vrais du mensonge de l'aîné.
Il s'inspirait de sa vraie vie à certains moments. Par contre, après tout ça, il y a beaucoup de journalistes qui ont remis en cause la participation de Manti Te'o à tous ces mensonges-là. Il y en a qui l'ont même traité de menteur ou qui l'ont même accusé d'avoir pris part à toute cette supercherie-là. T'en penses quoi, toi, Seb? Je sais que t'as regardé beaucoup d'interviews qu'il a données ici et là à des journalistes puis aux médias.
Oui, pis c'est vraiment bizarre parce que la plupart des journalistes le challengeaient, là, parce que cette histoire-là, on s'entend, là, quand on quand on sort un peu de l'événement, ça fait pas de sens. Là. Comment une personne peut avoir un accident de voiture, puis ensuite atteindre de leucémie, puis mourir? T'sais, on dirait que c'est pas réaliste. C'est même dans un film, ça serait pas réaliste. Puis souvent, même les journalistes le challengeaient si c'était pas lui pour cacher son côté homosexuel, qu'il s'était créé une blonde vis-à-vis des médias pour peut-être, du moins, c'est la pression, puis tout ça. On le sait pas du côté religieux, généralement, l'homosexualité. Pas nécessairement bien vu. Mais Manti a toujours démenti ça. Là. Il dit qu'il est très, très hétérosexuel. C'est vraiment pas à cause de ça. Il s'est simplement fait avoir. Puis lui-même, il se tient un peu responsable de ça, là, d'avoir maintenu cette relation-là quand même un certain temps sans. On dirait que des fois, il la remettait en question, mais il n'allait jamais jusqu'au bout malgré tout. Là. Justement, une journaliste le questionnait, mais. Quand il a été hospitalisé, son accident de voiture, lui, il était à San Diego, ce qui est à 2 heures de voiture de l'hôpital où ce qu'elle était.
Ouais.
Puis il a jamais pris la voiture. Tu sais, pourquoi t'es pas allé? Puis lui, il donnait comme excuse, ah, mais j'étais supposé de retourner à Hawaï voir mes parents, puis je voulais pas les décevoir. Mm-hmm. Mais tu sais, je veux dire, si ta blonde a un accident de voiture, t'appelles tes parents, mais écoute, je peux pas revenir aujourd'hui. Ma blonde est hospitalisée.
Oui.
Ça finit là. Mais j'ai l'impression que. On dirait que la relation avec son père par rapport à l'aîné, elle semblait un peu tumultueuse. Puis là, j'ai l'impression que peut-être qu'il aurait remis encore en question tout ça, puis que il voulait pas lever de flamèche avec ses parents. Mais je trouve que c'est pas une bonne excuse. Tu sais, c'est
non. Puis il a menti à plusieurs reprises. Hein. Au départ, il disait que ça faisait 4 ans qu'il était en couple avec elle, mais en fait, ça faisait un peu moins d'un an.
Ben oui,
ils se sont rencontrés soit dans la vie réelle, dans un match, ou bien sur Facebook en 2009. Il y a plein d'affaires qui se contredisent.
Ah oui, même ça a l'air qu'il y avait quand même régulièrement des FaceTime qui se faisaient, mais elle donnait toujours l'excuse que ça fonctionnait pas. Puis elle lui voyait le visage, mais lui, il disait « je voyais toujours un carré noir », puis elle disait que son téléphone ne fonctionnait pas, puis jamais il s'est questionné par rapport à ça, sur le fait que la caméra, par hasard, ne fonctionnait pas.
Oui. Bien, toute une histoire quand même, cette histoire de Manti Te'o.
Ouais.
On a creusé aussi l'histoire de Ronaya, et puis apparemment qu'il y aurait fait d'autres victimes par le passé, entre autres là, des Californiens, certains là, du nom de J.R. Vaoza et Celeste Tuyoti Mariner, des Californiens en fait, qui expliquent qu'en 2008, leur cousin a démarré là, une romance en ligne avec une femme qui justement se disait une modèle, une mannequin. Mm-hmm. Ils se sont rencontrés sur MySpace à l'époque.
Oh.
Et puis, elle avait vraiment l'air là, d'une modèle de Victoria's Secret. Là. Par contre, quand cette personne-là s'est nommée, elle portait le nom aussi de Lene Kekua.
Ah.
Donc, quand même assez louche. Puis, en fait, à un certain moment, Kekua avait même accepté de rencontrer son cousin à certains endroits. Par contre, elle s'est jamais pointée pour vrai. Elle avait toujours des excuses.
Okay.
Mais ce qui était très, très drôle, c'est que à tous les endroits où elle devait rencontrer le cousin en question, l'aîné n'était pas là, mais Ronaya, lui, était là. Lui, il était présent dans ces endroits-là.
Okay.
Par contre, à ce moment-là, Les deux cousins de cette personne-là anonyme qui était tombée en amour avec l'aîné en 2008, ben ils le connaissaient pas, Ronaya, donc ils ont allumé une fois que l'histoire de Manti Te'o est sortie dans les médias, et là ils ont fait 1+1 et se sont rendu compte que justement leur cousin avait aussi été victime de Ronaya. Apparemment qu'il y aurait eu d'autres victimes, donc c'est vraiment quelqu'un qui avait un problème à ce niveau-là, là, qui se créait plusieurs identités dans la vie virtuelle. Donc, quand même, assez inquiétant. On a vraiment un cas de catfish là, bien représenté ici. Là. Au niveau des sanctions, il n'y en a pas eu, je crois, parce qu'il a juste été suspecté, Ronaya.
Ouais.
Et il n'y a pas eu de charge portée contre lui.
Oui, puis j'aurais été curieux de savoir quel type de charge tu peux appliquer à quelqu'un quand quelqu'un fait ce genre de... Ben, j'allais dire un crime... C'est vrai que c'est une fraude, mais au niveau de la loi, je sais pas si c'est punissable, du moins aux États-Unis.
Je sais même pas si c'est une fraude, en fait, parce que est-ce que vraiment, il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre? Mais je crois que justement, quand tu simules une mort ou des choses comme ça, ça devient un peu plus grave.
Oui, mais il y a rien eu, là. J'ai cherché, voir s'il y avait une arrestation ou un procès ou quoi que ce soit, puis non, il y a rien. D'après moi, les autorités. Ben, tu sais, je sais pas si même Manti aurait pu le poursuivre au civil, par exemple. Là, ça aurait pu être autre chose.
Ouais.
Mais j'ai l'impression qu'il voulait peut-être tourner la page aussi, parce que Manti a l'air un peu fou hein, dans cette histoire-là. Là.
Oui.
Il était extrêmement challengé. Il n'est pas ressorti avec le plus beau rôle là-dedans. Là. Même si c'est la victime de tout ça, on dirait que sa grande naïveté... c'est ça, le fait pas bien paraître.
Non, c'est clair. Ça l'a pas empêché d'avoir une brillante carrière par la suite.
Ben oui,
c'est, c'est encore un bon joueur, mm-hmm. son agent libre en ce moment. Il a une brillante carrière dans la NFL mm-hmm. maintenant. Il est sans doute millionnaire.
Ah oui.
Et puis, ouais, je pense que cette histoire est quand même derrière lui. Donc, on a fait le tour quand même de la chronologie, Seb. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, là? Puis de, je sais pas, des cas de catfish en général?
Ben moi, ça me dépasse toujours un peu, en fait, ces histoires-là, mais c'est qu'à la base, les gens sont pas prudents. Mm-hmm. Tu sais, quand ils développent des relations en ligne, là, tu sais, si lui-même, là, il avait fait une petite recherche juste de googler l'aîné Kikua, ça serait bien rendu compte qu'il n'y aurait aucun résultat de rien.
Ouais.
Déjà là, à la base... tu sais, juste de faire ces recherches-là, parce que tu le sais jamais en ligne. Hein. Puis tu sais, ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Hein. Quand vous développez une relation, quelqu'un que vous avez rencontré sur un site de rencontre, tant que vous ne l'avez pas rencontré en vrai, gardez toujours un petit soupçon. Puis même si ça peut avoir l'air un peu freak, n'hésitez pas à googler la personne ou à faire mm-hmm. des recherches de photos inversées. Dès que vous avez un doute, n'hésitez pas à le faire, parce que ça empêche justement... des fraudeurs, on peut les appeler comme ça, là, tu sais, ça va vous empêcher peut-être de tomber dans un genre de tourbillon comme ça, là, tu sais, d'être beaucoup plus prudent puis de valider si la personne derrière le clavier de l'autre côté est bel et bien celle qu'elle dit être. Parce que si cette éducation-là est là, j'ai l'impression qu'il va y avoir moins de cas de gens qui vont se faire avoir là-dedans, là, tu sais.
Ah oui, tout à fait. Nous, de notre côté, en fait, on a fait un épisode de notre série télé sur le thème.
Oui.
Et on a parlé, entre autres, au Centre antifraude du Canada. Mm-hmm. Et puis, c'est plus de 22 millions par année au Canada là, d'argent
ouais.
En conséquence des fraudes de stratagèmes amoureux. Donc, c'est un gros, gros chiffre. C'est, dans le cas de Manti Te'o, il n'y a pas eu de fraude monétaire,
non.
Il n'y a pas eu d'extorsion d'argent, mais ça arrive assez couramment que ça va jusque-là. Là. Donc, faut pas hésiter, lorsqu'on a un cas comme ça, qui va aussi loin que ça, mm-hmm. à dénoncer, même à envoyer une plainte au Centre antifraude du Canada. Donc, et pas hésiter à le dire aux enquêteurs, là, lorsqu'il y a une fraude monétaire d'impliquer dans mm-hmm. une histoire de catfish comme ça, parce que ça peut aller assez loin.
Oui, parce que 22 millions, le montant, d'un côté, il a l'air gros, mais d'un autre, il nous mentionnait, la personne du Centre antifraude, que c'est pas un montant si élevé versus la réalité.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a énormément de gens qui portent pas plainte parce qu'ils ont honte.
Oui, évidemment.
Ou même qu'ils se rendent, comme ils nous expliquaient, ils se rendent pas compte quasiment que c'est un acte illégal, qu'ils se sont fait avoir, puis qu'ils devraient pas s'être fait avoir. Fait que il y a tout ce tourbillon-là qui fait que les gens sont confus. Ils ont honte ou ils pensent pas que c'est un crime, fait qu'ils dénoncent pas.
Exact.
Donc, n'hésitez pas à dénoncer, hein, parce qu'eux, ils peuvent cumuler aussi les sources, les dossiers, puis après ça, peut-être pointer vers quelqu'un qui est vers le coupable, là, parce que souvent les gens, justement, ont pas une seule victime, ont plusieurs victimes quand ils font du catfishing.
Exactement. Ça me rappelle une autre histoire, Seb, que je vais raconter rapidement
oui.
ici, parce que les histoires de catfish semblent être... ça semble marcher auprès des athlètes professionnels,
oui.
parce que vous l'avez vu dans notre saison précédente, on a couvert le cas de Shelly Chartier
oui.
et du basketteur américain, le Chris Anderson, qui lui aussi s'est fait avoir
oui.
dans une histoire de catfish, et Shelly Chartier a même fait de la détention
oui.
pour ça, donc on vous invite à aller réécouter l'épisode d'une saison précédente, vous allez le trouver assez facilement, mais c'est arrivé aussi à un autre joueur de la NFL,
oui.
Ike Enemkepali, qui est un joueur qui joue entre autres pour les Jets et les Bills. Et vous allez voir, c'est une histoire assez tordue, celle-là aussi. Tout ça remonte au rapport de police, en fait. Il n'y a pas eu beaucoup d'articles.
Okay.
Il y a eu un rapport de police que les journalistes se sont emparés par la suite pour raconter l'histoire. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. En septembre 2011, Ike Enemkepali a commencé à échanger avec une fille sur Facebook du nom de Missy Lee. Et Missy Lee, là, elle lui a offert une fellation si celui-ci acceptait de venir la rencontrer chez elle.
Hmm.
Ça n'a pas du tout l'air d'un piège ici.
Non.
À l'époque, NM Kepali jouait au niveau collégial. Il était connu le même pas autant que lors de sa carrière dans la NFL. Plus tard, il s'est rendu à la maison, et là, écoutez bien ça, il s'est retrouvé dans une pièce sombre où quelqu'un était assis au sol, en plein milieu, avec une couverture par-dessus lui, là, de la tête aux pieds. Et à cet instant précis, là, le joueur a été effrayé et est reparti rapidement sans toutefois en faire une grosse histoire. Plus tard, cette même Missy Lee l'appelle par téléphone cette fois-ci et le convainc encore de revenir à la maison pour lui faire une fellation. Donc, on voit que sont faciles à convaincre. Encore une fois, il se retrouve dans le noir avec quelqu'un au centre de la pièce, encore avec un drap de la tête aux pieds. Mais là, à un certain moment, il y a un iPhone qui s'illumine dans le milieu de la pièce, et que là, qui illumine tout, hein. Et là, il remarque que la personne au centre avec le drap semble avoir une barbe. Il va aussi remarquer que quelqu'un d'autre dans la pièce, à quelque part. Et à ce moment-là, NM Kepali là, va donner un coup de poing là, directement au visage de la personne sous le drap sans même voir son visage là, et va se sauver par la fenêtre de la maison. Et là, bon, c'est assez savoureux comme anecdote. Au cours des semaines qui ont suivi, NM Kepali a reçu des menaces de la part de Missy Lee qui lui demandait de l'argent pour le faire chanter là, en raison du coup de poing à la figure. Donc, Missy Lee lui disait « Ben écoute, je vais révéler notre histoire, ça paraîtra pas bien pour ton recrutement au football si tu me rembourses pas des frais là, vu que tu m'as pété la gueule. » Et là, les enquêteurs ont retracé les appels téléphoniques de Missy Lee à un certain Catherine Anderson, donc qui est un homme âgé de 34 ans, qui est même un pasteur.
Ben voyons.
Oui, qui aurait été la personne derrière ce catfish-là. Là. Et là, NM Kepali va complètement manquer sa saison 2011 puisqu'il s'est cassé la main en frappant Anderson, ce qui va affecter là, sa cote de recrutement parce qu'il était au collégial avec comme objectif de se retrouver dans la NFL. Donc, ce qui est assez phénoménal comme histoire. Malgré tout, il va pas porter de charge contre Anderson, mais le chef de police va le sermonner sévèrement en décrivant ses gestes là, comme étant au mieux immoraux, au pire, criminel. On connaîtra malheureusement jamais sa réelle motivation à catficher NM Kepali. Donc, assez particulier comme histoire, celle-là aussi là, de catfish. Il semble qu'il y ait une tendance chez les athlètes professionnels à se laisser berner dans des histoires comme ça.
J'aurais tendance à penser que, juste au contraire, ils seraient plus méfiants que ça,
ben oui.
D'accepter l'invitation de n'importe qui. Tu sais tellement jamais sur qui tu vas tomber. Il me semble que c'est risqué, hein, mais j'ai l'impression que des fois que les pulsions sexuelles dépassent le bon raisonnement d'à peu près de beaucoup de gars. Là,
ben oui.
Du moins, c'est un peu ça qu'on peut voir dans cette histoire-là. Le crime, il est retourné deux fois. C'est pour la même invitation.
Oui, okay. C'est ça. Si on vous invite à la maison pour une fellation, là, c'est un drapeau rouge. Là,
oui,
donc, méfiez-vous. Aussi, le fameux vidéo-chat, hein, c'est important
quand on a
affaire à une relation comme ça qui semble fausse, d'essayer le plus possible de faire du vidéo-chat, donc du Skype ou du FaceTime. Mm-hmm. Si la personne refuse toujours, encore une fois, c'est un drapeau rouge.
Là. Ah oui, c'est pas normal là, que la caméra d'un ordi et d'un téléphone soit toujours brisée. Là. Ça existe pas là, dans la vie. Là.
Un autre cas, en fait, que je voulais vous parler rapidement, c'est celui dont on a parlé dans la série télé qui a été diffusée la semaine passée, qui doit être encore en rediffusion au moment où on se parle, dans la série télé de Distorsion sur moi et compagnie. C'est le cas de Sophie, donc on a couvert dans le show. Brièvement, c'est une histoire quand même assez troublante et que j'ose croire qu'on a aidé à résoudre d'une certaine façon. Je vous brief rapidement. Là. Sophie, c'est une femme de Montréal qui est dans le début de la cinquantaine.
Ouais.
Et elle a rencontré, il y a environ un an, un certain Gérald sur Elite Singles, donc le réseau de rencontres.
Ouais.
J'ai toujours cru que c'était payant, ça, mais apparemment il y a une version gratuite.
Oui, ça a l'air. Mais je pense que pour les femmes, comme souvent dans les secteurs de rencontres et tout ça, amoureux, les bars, les femmes ont souvent plus de privilèges, j'ai l'impression, pour attirer une base de clientèle pour après ça que les hommes, eux, puissent s'inscrire et payer.
Oui, évidemment. Et en fait, ces deux-là, Gérald et Sophie, vont discuter via Viber. Donc ça, c'est Gérald qui va toujours exiger qu'elle parle avec Viber, qui est une application là, pour faire des discussions, mais qui encrypte les communications, qui va même effacer les vieux messages. Donc, c'est très difficile de savoir où la personne est vraiment située. Gérald va toujours refuser de faire du vidéo chat, comme on en a parlé, ce qui est encore très douteux. Elle, Sophie, en passant, elle nous a contactés via les réseaux sociaux. Donc, on a passé une annonce il y a quelques mois à propos du fait qu'on recherchait des victimes de catfish. Et puis, Sophie est venue vers nous pour nous raconter son histoire. Donc, ça a pris beaucoup de courage. Et là, il y a des ce qui est particulier dans leur relation, c'est qu'il va y avoir des échanges d'argent qui vont commencer. Ouais. Parce qu'à un certain moment, ben Gérald va se retrouver injustement en prison au Mali parce que c'est bon un Français qui a habité Montréal et qui est maintenant au Mali. Et puis donc là, étant donné qu'il est en prison injustement, ben il va lui demander de lui envoyer des fonds pour payer un avocat pour essayer de s'en sortir. À un certain moment donné, il va avoir besoin d'argent pour manger et à un certain moment donné, il va même lui demander d'envoyer de l'argent physique, là, des billets dans un paquet, là, dans un colis, envoyé à un homme de Lévis, donc sur la rive sud de Québec. Donc, c'est assez particulier. Elle va lui envoyer là, dans l'année plus de 100 000 $.
Incroyable.
Ce qui est un chiffre vraiment incroyable. Donc, Sophie, on a fait des recherches pour elle, entre autres sur l'homme de Lévis, au registraire des entreprises. Donc, on a trouvé son adresse. On a même contacté ses voisins, ses propriétaires. On n'a jamais réussi à lui parler à lui, par contre. Il y a même un membre de notre équipe de tournage qui est passé devant chez eux. On a aussi fait de la recherche dans les documents qu'elle a reçus. Donc, elle a reçu des passeports à un certain moment donné quand elle doutait de l'identité de Gérald. Il lui a envoyé des passeports qui se sont avérés faux. Il y avait aussi des attestations de dette, des certificats de notaire, parce qu'il y a tout un casting de personnages là-dedans. Elle faisait affaire avec un notaire, avec un sergent de police. Et puis, toutes ces attestations-là qu'il lui envoyait étaient fausses. Donc, faut se méfier parce que c'est facile de produire des documents qui ont l'air réels quand même.
Ben oui, c'est comme si en plus c'était des photocopies. T'sais, puis on s'entend, là, numériser une photocopie, c'est facile à avoir l'air d'un vrai document. Là.
Tout à fait. Et nous, on a fait des recherches aussi au niveau des adresses IP, des courriels reçus, ce qui nous a mis sur la piste, en fait, d'un groupe de fraudeurs africains. Donc, selon les adresses IP, on s'est rendu compte qu'ils se cachaient derrière un VPN, mais que ce VPN-là était utilisé par, justement, des groupes de fraudeurs africains depuis des années, là, même remontant jusqu'à 2013. Ouais. Donc, ça fait très longtemps. Donc, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche. Il y a peut-être même toute une organisation qui est derrière cette fraude-là. Là. Et lorsqu'on a fait des recherches inversées d'images, on est tombé sur plein de profils différents. Donc, il semble avoir plusieurs personnes qui utilisent les photos de Gérald, du moins. Et puis, on est tombé au final sur le profil d'un certain Brian Hogan, qui est un modèle, un animateur, un acteur de Los Angeles. Donc, lui, il est bien réel, il y a un agent, il y a un site web officiel. Et en fait, on a tout révélé ça à Sophie, qui a été dévastée. Donc, pendant l'épisode, on lui a fait ces révélations-là pour l'aider à tourner la page éventuellement. On a même appelé Gérald pour se rendre compte que la voix ne semblait pas très correspondre avec la photo qu'il avait envoyée à Sophie. Là.
Non, exact. C'est vraiment pas... Il vient pas du même endroit.
Donc, on voit que ça peut arriver un peu à tout le monde. Si vous voulez voir l'épisode, évidemment, c'est disponible sur Moi et compagnie. C'est une histoire quand même assez troublante. Par la suite, on lui a remis, en fait, là, les documents de nos recherches à nous. Puis elle, par la suite, sa mission, c'est de le rapporter aux policiers puis au centre antifraude canadien. Et puis, on s'est rendu compte que plus tôt cet été, le fameux homme de Lévis à qui elle envoyait de l'argent a été arrêté en lien avec plusieurs histoires là, du genre. Là. Donc, au moins, il y a eu une arrestation. Est-ce que cet homme-là était simplement une mule, un passeur de fric pour une plus grosse organisation? Pour l'instant, on le sait pas. Ouais. Mais au moins, on se rend compte qu'en dénonçant, avec la pression de groupe, si on est plusieurs à dénoncer quelqu'un, ben ça peut porter fruit à un certain moment.
En tout cas, Émile, c'était toute qu'une histoire, hein, ce cas-là de Manti Théo. Si vous voulez faire des recherches supplémentaires, allez voir les photos de l'aîné ou de Diane, là, qui est la vraie personne, ou même du vrai là, de Ronaya.
Oui.
Vous allez voir, même Ronaya, il ressemble un peu physiquement à Manti.
C'est vrai.
Au niveau du visage et tout ça, ils ont quand même certains traits de ressemblance. Ça, c'est juste un hasard, mais on espère que ça vous a plu, cette histoire-là. Nous, on était vraiment contents de retourner derrière le micro.
Oh oui.
De vous raconter une histoire étrange de l'ère numérique. Et cette histoire-là, je trouve, elle correspondait parfaitement aux histoires qu'on aime.
Exactement. Si vous nous cherchez, vous savez où nous trouver. On est sur Instagram, Distorsion Podcast, sur Facebook aussi, oui. Même chose. Twitter, Distorsion Pod. On est sur Untappd aussi, un réseau social de bière.
Oui.
Et n'oubliez pas notre groupe privé de discussion. Donc, vous savez, on a été un peu plus absent au cœur de l'été. On tournait, on n'avait pas beaucoup de temps. On était en pause aussi, mais là, on va revenir de plus belle. Donc, on risque d'être un peu plus présent sur le groupe. Ouais. Si vous désirez être modérateur pour le groupe, envoyez-nous un petit message privé là, via la page de Distorsion. On est toujours à la recherche de gens qui veulent s'impliquer au sein de la communauté.
Ouais.
Et puis, bien, on a bien hâte à la semaine prochaine pour vous raconter une autre histoire obscure. Là-dessus, Seb, aurais-tu un mot de la fin pour nous ce soir?
Sachez qu'un distordu averti ne se fait pas avoir par un catfish. Exigez toujours un appel vidéo. Sinon, faites appel à Émile et Seb, les vengeurs du web.
Oh.